J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Salut tout le monde et bienvenue sur Aléa. Nous continuons notre chronique sur l'histoire des joueurs artificiels en nous intéressant aujourd'hui à la notion d'apprentissage machine, ce fameux machine learning dont on entend fréquemment parler dans les médias. Dans notre dernier épisode, nous avons insisté sur une difficulté majeure de l'intelligence artificielle lorsqu'elle a tenté à ses débuts de transmettre aux ordinateurs nos propres connaissances, nos propres raisonnements, pour que ceux-ci soient capables, par exemple, de jouer aux échecs. L'idée était la suivante. Pour concevoir un joueur artificiel, il suffisait aux joueurs humains d'expliciter la manière dont ils jouent, de formaliser leurs différentes stratégies et d'ainsi reproduire ces mécanismes sous la forme d'un programme. Traduire les raisonnements humains dans le langage de l'informatique. Mais nous avons vu que ces raisonnements relevaient plutôt d'un savoir-faire, d'une connaissance tacite du jeu, et non de simples connaissances factuelles qui auraient pu être facilement explicitées et transmises. En d'autres termes, on ne peut pas apprendre à jouer aux échecs en lisant un simple manuel. Il faudrait au contraire que les machines se mettent elles-mêmes en situation pour former leur propre représentation du jeu, leur propre connaissance tacite. Et c'est là qu'intervient l'apprentissage machine. Parmi la multitude des techniques d'apprentissage développées par l'intelligence artificielle, nous nous intéressons aujourd'hui aux techniques d'apprentissage supervisé. Apprentissage parce que la machine va construire sa propre représentation du jeu, mais supervisé parce que cette représentation est quand même construite à partir de connaissances humaines. Il s'agit en fait d'apprendre par l'exemple. Pour concevoir un algorithme d'apprentissage supervisé, il faut donc commencer par rassembler des exemples, des cas d'études. Aux échecs, il s'agit de situations de jeu. Plusieurs milliers de situations de jeu qui ont été soigneusement évaluées par des experts. Alors, il ne s'agit pas de fournir une analyse détaillée de ces situations, puisque de telles analyses sont justement difficiles à formaliser, mais plus simplement de classer ces situations en deux catégories. Celles qui devraient être évitées, si l'on souhaite gagner la partie, et celles qui sont à préférer. En d'autres termes, celles qui sont favorables et celles qui sont défavorables, mais sans jamais expliciter les raisons de cette classification. C'est justement à la machine de trouver ses propres raisons en cherchant des régularités dans les exemples qui lui sont présentés. On a donc recours à des algorithmes de corrélation statistique, des algorithmes qui cherchent des points communs entre les situations de jeu favorables et d'autres points communs entre les situations de jeu défavorables. Est-ce que par exemple la position des pièces sur l'échiquier est corrélée avec l'évaluation fournie par les experts ? Si un motif est retrouvé dans plusieurs situations de jeu favorables, alors peut-être que ce motif constitue justement la raison pour laquelle ces situations ont été classées de la sorte. D'autres motifs pourront apparaître à la fois dans des situations favorables et défavorables, signifiant qu'ils n'ont finalement que peu d'impact sur la partie et qu'ils devraient donc ne pas être pris en considération. L'objectif de chercher ainsi des corrélations dans les exemples est de pouvoir ensuite classifier de manière automatique de nouvelles situations de jeu. Des situations qui ne sont pas contenues dans la base d'apprentissage, mais qui comportent peut-être des motifs similaires aux situations déjà rencontrées. On peut alors évaluer ces nouvelles situations par simple comparaison. Les exemples sont ainsi assimilés par la machine sans qu'on ait à programmer de manière explicite le raisonnement des experts. Cette expertise est nécessaire pour rassembler et pour classer les différents exemples, mais elle n'est pas prédigérée. En découvrant ces corrélations, l'algorithme reformule ce qu'il voit dans son propre langage, avec ses propres raisonnements, à savoir le raisonnement statistique. On pourrait dire que l'apprentissage supervisé répond ainsi à un problème classique de la philosophie du langage, le problème du fondement des symboles. La question est de savoir comment les mots, les symboles ou autres représentations mentales acquièrent du sens pour celui ou celle qui les utilise. Pourquoi et comment l'expression « un chat » désigne effectivement un chat. Est-ce que l'apprentissage mécanique du mot suffit à lui donner son sens, même si la personne qui l'utilise n'a en pratique jamais vu de chat ? Imaginez que j'ai appris à utiliser ce mot pour l'employer dans différentes conversations. Je sais par exemple que la phrase « les chats sont des félins qui adorent les souris » est une phrase correcte, alors que « Les chats tournent autour du soleil en 365 jours n'est pas une phrase correcte. Je serais alors capable d'utiliser ce mot à propos dans les bonnes situations, même si je n'en ai jamais vu. Les gens avec qui je discute ne peuvent pas faire la différence. Pourtant, je ne fais qu'utiliser des mots que j'ai appris de manière mécanique, des mots qui sont pour moi vides de sens. Pour que l'expression « un chat » désigne vraiment un chat, il faut apprendre cette expression en situation, c'est-à-dire en faisant l'expérience des chats et en reliant cette expérience avec un symbole, le mot, et avec d'autres symboles qui sont généralement utilisés dans le même contexte. Un animal, du pelage, ronronner, des moustaches, etc. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'apprentissage supervisé. Plutôt que d'apprendre à reproduire le fonctionnement des êtres humains de manière mécanique, la machine construit son propre univers symbolique à propos du jeu d'échecs, à propos des pièces, à propos de leur position et de leur mouvement. Et elle relie ces symboles à des contextes d'utilisation réels, les situations de jeu qui sont le point de départ de l'apprentissage. Il est intéressant de voir qu'en répondant à ce problème philosophique, on obtient également une bonne solution technique. Il paraît en effet plus raisonnable d'apprendre à jouer aux échecs par l'exemple plutôt que d'apprendre par cœur. Ça permet notamment de s'adapter plus facilement à de nouvelles situations, de poursuivre son apprentissage lorsqu'on rencontre de telles situations, voire même d'imaginer de nouvelles stratégies de jeu en combinant les observations réalisées lors de nos différentes parties. Ainsi, en étudiant la manière dont les êtres humains apprennent eux-mêmes à manipuler les symboles, on est capable de construire des machines plus performantes. L'intelligence artificielle bénéficie ainsi d'une meilleure connaissance de l'intelligence humaine.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !